Bien, je vous remercie d'être présents nombreux aujourd'hui malgré les circonstances difficiles et je voudrais commencer par rendre hommage aux victimes des terribles attentats de la semaine dernière. Je remercie très vivement Herri de Luca de nous faire l'honneur d'ouvrir le cycle des rendez-vous littéraires de l'École des hautes études en sciences sociales, Penser le monde, réfléchir l'écriture. D'autant qu'il est venu spécialement de Rome pour cette rencontre, dans une conjoncture difficile pour lui aussi. Avant d'introduire la rencontre, je tiens à préciser que ces rendez-vous sont organisés par le HESS en partenariat avec le laboratoire d'excellence TEPSIS, transformation de l'État, politisation des sociétés, institution du social, et par la Maison de la Poésie. Les rencontres vont se tenir en alternance à l'EHESS et à la Maison de la Poésie. La prochaine rencontre aura lieu le 7 mai à 19h à la Maison de la Poésie et notre invitée sera l'écrivaine Camille Laurence. Une rencontre se tiendra également au festival Les Correspondances de Manosque à la fin septembre. Alors, l'objectif de ces rencontres est d'engager une discussion entre écrivains et chercheurs en sciences sociales sur des enjeux de société, sur des questions d'actualité, sur le rôle social de la littérature, sur celui des sciences humaines et sociales, sur les formes de la connaissance littéraire et scientifique, sur l'écriture et ses publics. Il s'agit de dépasser le cloisonnement qui prévaut encore entre le monde littéraire et le monde de la recherche pour renouveler un dialogue demeuré confiné à quelques cercles restreints ou quelques rencontres occasionnelles. La rencontre d'aujourd'hui est co-organisée avec la Maison Gallimard, avec l'aide de Jean Materne, éditeur de Herri de Luca en France, que je remercie pour cette aide et de sa présence. Et elle est parrainée par la Nouvelle Quinzaine littéraire et par la librairie Tchan. Nous avons invité Herri de Luca à débattre de la question de la responsabilité de l'écrivain aujourd'hui à propos de son essai « La parole contraire » qui porte sur l'engagement et la liberté d'expression. Herri de Luca est un des plus importants écrivains italiens contemporains. Il est l'auteur d'une œuvre très vaste, traduite en français pour la plupart chez Gallimard. Je citerai notamment Monte Didio, qui avait remporté le prix Femina étranger en 2002, et plus récemment, celui qui est sorti en septembre, Le tort du soldat. Alors, l'essai « La parole contraire », qui est traduit en français comme toute l'œuvre d'Herri de Luca par Daniel Valin, et on doit la remercier d'avoir traduit dans des conditions records cet essai, a été publié donc en ce début janvier par tous les éditeurs de Herri de Luca, à la veille du procès qui lui est intenté par la société chargée des travaux de construction de la ligne TGV Lyon-Turin. Herri de Luca soutient en effet de longue date le combat des habitants de la vallée de Suse dans le Piémont qui se sont regroupés dans l'association NOTAV pour empêcher la construction de cette ligne TGV. Je laisserai évidemment Herri de Luca revenir sur les enjeux de ce débat qui tiennent non seulement à la question de la préservation de la vallée, mais aussi à un risque de diffusion de particules d'amiante avec le percement des tunnels. Et puis les tunnels contiennent aussi de l'uranium. Alors c'est cet engagement du côté de NOTAV qui le mène aujourd'hui devant les tribunaux. Suite à deux interviews parues dans la presse internationale pendant l'été, il est accusé d'incitation à la violence. Son procès va s'ouvrir à Turin le 28 janvier 2015 et il risque entre 1 an et 5 ans de prison. Et c'est en réponse à cette accusation qu'il publie ce pamphlet. Il y développe, contre la conception pénale de la responsabilité de l'écrivain, sa propre conception de la responsabilité morale et sociale de l'écrivain et une réflexion sur la liberté d'expression. Cette réflexion peut être rattachée à une longue tradition d'affrontement entre les écrivains et la justice autour de la liberté d'expression, dont ils ont contribué à faire étendre les limites. En France, par exemple, il faut rappeler que sous la Restauration qui instaure un régime de liberté de presse encore très restrictif, la liberté religieuse et la liberté de discussion philosophique étaient reconnues, mais l'athéisme, par exemple, restait un crime. Il était exclu du domaine de l'opinion et il l'est resté jusqu'à la grande loi républicaine de 1881 qui privatise la religion. Les débats parlementaires autour de la législation sur la liberté d'expression, comme les procès eux-mêmes, des procès d'écrivains, sont très intéressants car ils portent généralement sur la langue et sur l'interprétation des textes. Selon les défenseurs de la liberté de presse, on ne peut condamner sur des allusions, des interprétations. Il faut que les provocations soient claires, explicites. Or, les écrivains, qui sont évidemment des spécialistes du langage, les rois ou reines de la métaphore, qui savent jouer sur les mots, mais aussi qui font évoluer le langage, sont évidemment... ne sont pas d'accord avec souvent les interprétations qui sont faites de leurs paroles. Et je pense qu'Éric De Luca a des choses à dire sur cette question. Par ailleurs, les écrivains ont toujours revendiqué le droit de soutenir les luttes sociales et politiques. Et une des questions centrales qui se pose dans ce cas, c'est le rapport entre la parole et les actes. La justice, parfois, considère les discours comme performatifs, auquel cas ils sont poursuivis pour eux-mêmes quand ils transgressent la morale ou l'idéologie dominante, et parfois comme des provocations à commettre des délits ou des crimes, selon une croyance idéaliste dans le pouvoir des mots, qui, en France, a été fortement exacerbé par la conviction, qui était d'ailleurs partagée par les révolutionnaires et les contre-révolutionnaires, que les écrits philosophiques étaient responsables de la Révolution française. Alors, Éric De Luca, comme je le disais, à la conception pénale de la responsabilité, vous opposez votre propre vision de la responsabilité morale et sociale de l'écrivain. Je vous cite dans ce livre, donc La parole contraire. « Son domaine est la parole. Il a donc le devoir de protéger le droit de tous à exprimer leur propre voix. Parmi eux, je place au premier rang les muets, les sans-voix, les détenus, les diffamés par des organes d'information, les analphabètes et les nouveaux résidents qui connaissent peu ou mal la langue. Tar picha la ilem. « Ouvre ta bouche pour le muet », c'est un proverbe en hébreu. « Telle est la raison sociale d'un écrivain, en dehors de celle de communiquer, être le porte-parole de celui qui est sans écoute. » Donc, donner voix aux dépossédés, cette ambition, on pourrait dire, sous-tend toute votre œuvre. On pense au grand-père mineur qui jouait du violon. Et donc, c'est dans une des nouvelles en haut à gauche. Et la voix du grand-père survit à travers ce violon. On pense au cordonnier juif bossu de Monte Didio, Don Raffaello, qui a réchappé à la Shoah et qui dit « Nous sommes des vivants refusés par la mort ». Alors, d'où vous vient cette conception de la responsabilité de l'écrivain ? Est-ce qu'il y a pour vous une continuité entre votre œuvre et votre engagement sous ce rapport ?
Me vient de mon siècle. Le XXe siècle a été le siècle où les écrivains, les philosophes, les poètes ont été tués, emprisonnés, exilés pour leurs mots, pour ceux qui avaient écrit. Pensée dit. Donc, je viens d'un siècle, je suis élève d'un siècle qui a donné cette importance capitale à la parole et a impliqué les vies des personnes qui prononçaient ces mots. Donc, je suis un élève d'un siècle responsable qui a payé le poids de ces mots avec la propre vie. J'ai appris de ça. L'importance de la parole et de la fidélité à cet outil que nous échangeons entre nous si librement et si efficacement. J'aime le fait qu'il y a des endroits comme un marché de vaches ou un marché de diamants où des contrats se font avec la parole donnée et une étreinte de main. Ce sont des choses qui vont bien à côté ensemble. La parole dite et le geste qui remarque, confirme la parole donnée. Dans ma famille, ils m'avaient empêché, mes parents, d'employer le verbe jurer. Je te jure, ça, c'était interdit. Ça doit suffire ton mot. Tu affirmes, tu dis et ça suffit. Il n'a aucun besoin de cette épice sulfureuse du verbe jurer. Il suffit ton mot. Alors, j'ai appris l'emploi de cet outil avec toutes les conséquences qu'il doit comporter. En plus, je suis un lecteur de l'Ancien Testament. Et alors là, dans cette histoire et dans cette écriture, il y a une responsabilité absolue du mot. Parce que le mot de la divinité crée le monde. Les six jours de la création sont avant dits par la divinité, avant il dit la création, et après la création se fait. La création se fait à travers les mots de la divinité. Et ça veut dire que la divinité devient responsable du monde. N'est pas un acte d'un prestigiateur qui fait comparir un effet spécial et puis il s'en fout, il s'en va. Non, il est enchaîné à l'action qu'il a commise. Il a fait le monde, donc il est responsable de la matière du monde et du bien et du mal qui est mêlé dans le monde. Donc j'ai eu une éducation qui m'a dit que le mot a une nécessité d'être lié à la chose accomplie, à sa poursuite, à la directe responsabilité de la, comme une action accomplie. Parce que dans cette ancienne écriture hébraïque, il y a aussi un mot, qui tient ensemble le mot et le fait accompli. Le mot davar, en ancien hébreu, ça veut dire soit le mot, la parole, que le fait accompli de la parole. N'existe que là, cette conjonction du dictionnaire, de le dire et de le faire, dans un seul mot. Mais c'est exactement ce que je crois indispensable pour quelqu'un qui a cette fidélité et et donne cette importance aux mots. Même les mots privés. Si je arrive à dire « je t'aime », je ne peux pas dire le jour avant, le jour après « je ne t'aime pas ». Parce que tu as employé un mot très solennel. Que le mot aimer, c'est un mot qui engage ta vie. C'est pas seulement ton exploit sentimental, engage ton futur. Tu es responsable de ce mot. À Naples, il n'y a pas le verbe aimer. On dit, il n'existe pas le verbe aimer. Pour dire que quelqu'un aime une personne, il dit je te veux bien. Que c'est une volonté de vouloir bien qui peut toujours être remise en cause. Ça fait partie du contrat, insomme, de la relation. Mais le verbe aimer, non, n'a pas cette possibilité d'être rétractile, comment dire, retraité, dénié ou renié.
Oui, alors, justement, on parle de langue. Vous racontez dans le Tort du soldat que vous avez appris le yiddish, langue, dites-vous, parlée par 11 millions de juifs d'Europe de l'Est et rendue muette par leur destruction, pour, vous dites, redonner vie à une littérature menacée de disparition, faute d'entendants. Alors, est-ce que ça me faisait penser à l'idée de la responsabilité du traducteur aussi que vous êtes ?
La destruction des Juifs d'Europe a été la blessure la plus marquante, la plus balafrante sur le visage d'Europe dans le XXe siècle. Et donc, c'est produit dans la moitié où je n'étais pas encore là. Mais j'étais affecté par cette histoire, qui n'était pas une histoire comme des histoires qu'on lit dans les traités d'histoire, c'était la volonté de détruire le nombre majeur de vies humaines. C'était le déracinement des vies humaines dans le cœur de l'Europe. Et alors cette histoire a affecté mon enfance, mon adolescence, en tant qu'élève de ce siècle majeur qui a été le XXe siècle. Et la seule chose qui peut faire quelqu'un venu après la destruction d'une entière langue, d'un anéantissement et un ensevelissement d'une langue, était blessé de la apprendre, de la lire, de la chuchoter, de la dire, de la chanter, de faire remuer les lèvres d'une langue assassinée. C'était une responsabilité qui était à la portée de quelqu'un venu après. Donc j'ai voulu apprendre le yiddish. Parce que aussi, un héros de mon adolescence était Marek Edelman, un des résistant, combattant du juif de juif de l'insurrection du ghetto de Varsovie de l'april mai 43. Et 50 ans après, c'était le 93, je suis allé à Varsovie pour participer des célébrations du cinquantenaire de l'insurrection du ghetto. Et là, j'ai rencontré, j'ai vu Marek Edelman pour la première fois. Et j'ai écouté sa voix toute baisse, même étouffée, qui parlait polonais à une petite foule qu'il était en train de l'écouter dans une petite place. Et je suis revenu de Varsovie avec l'intention d'apprendre le yiddish, pas le polonais qu'il parlait, lui. Mais parce que le polonais était encore était une langue bien vivante. Mais le yiddish, cette langue qui était une langue parlée par 11 millions de personnes dans l'Europe d'avant-guerre, qui était complètement disparue. Ça m'a donné aussi la possibilité d'ouvrir les pages d'une littérature géante, disponible seulement à ce peu de gens qui avaient la clé pour entrer dans le jardin.
Et la guerre est souvent en arrière-plan dans vos œuvres, hein, la Deuxième Guerre mondiale évidemment, mais aussi par exemple la répression contre les opposants après le putsch de la junte militaire en Argentine. Et la résistance des dominés, aussi désespérée soit-elle, est également un thème qui vous est cher. Hein, vous évoquez Marek Edelman, vous en parlez dans Le tort du soldat. Dans La parole contraire, vous revenez sur votre trajectoire intellectuelle et politique, et vous dites que vous êtes devenu anarchiste après avoir lu L'hommage à la Catalogne de Orwell. C'était pas 1984, c'était vraiment L'hommage à la Catalogne qui retrace donc les combats des anarchistes du PUM pendant la guerre civile espagnole.
Oui, je suis incriminé d'incitation à la violence, mais ce qui vraiment peut faire un écrivain comme incitation, c'est l'incitation à la lecture. Et aussi l'incitation à l'écriture, si possible, si arrive jusqu'à là. Donc j'ai été, comme lecteur, incité à la lecture et à la réaction et à la formation de sentiments politiques. Être à côté des anarchistes espagnols dans la lecture de Hommage à la Catalogne de Orwell m'a fait devenir m'a formé dans moi des sentiments de sympathie et de justice à côté de ces anarchistes espagnols écrasés par avant d'être défaits dans la guerre civile espagnole, écrasés par les alliés du Parti communiste français, écrasé par eux d'abord. Donc j'ai formé mon éducation, mon première éducation sentimentale en matière politique, donc le sentiment de la condivision, de la fraternité, de la compassion, qui sont des sentiments de politique par excellence, parce qu'ils amènent à prendre parti. Avec l'incitation ou l'instigation de Orwell. Alors moi, en tant qu'écrivain, j'aimerais, mon ambition à instiguer ou à inciter, c'était celle de pouvoir offrir à un jeune des raisons pour faire son choix civil à côté de n'importe qui, de n'importe quel mouvement ou occasion de sa responsabilité de contemporain de son temps. Donc moi, et c'est ça l'incitation à laquelle j'aspire, face à laquelle l'incitation à quelques actes de dommagement, c'est le rien du tout pour moi. Ça veut dire rien. Je ne me prends pas pour quelqu'un qui peut inciter des autres. Si j'ai besoin, si je sais que c'est une chose juste à faire, c'est moi que je la fais. Comme toute ma vie politique comme militant révolutionnaire a été comme ça. Les mots que je disais étaient conformes aux choses que je faisais. Je n'étais pas l'envoyé de quelqu'un et je n'envoyais pas quelqu'un à ma place. j'ai appartenu à une génération qui faisait ce qu'il disait, prétendait d'être responsable de ses actions et de ses mots, et de les suivre jusqu'au bout. Donc, et c'était comme ça dans le monde, ce n'était pas ma génération locale, napolitaine, ou méridionale ou italienne, c'était comme ça dans la actualité du monde du XXe siècle, qui a été un siècle de révolution. À travers l'outil politique des révolutions ont changé. Les rapports de force dans le monde entier ont été renversés des empires coloniaux. Dans tous les, sur la escale du monde entier, et renverser des dictatures et des tyrannies. Donc, c'était ce qu'il fallait faire dans ma génération. Et donc, l'idée que, avec mes mots d'écrivain, j'ai incité quelqu'un à faire quelques dégâts, c'est pour moi. La chose la plus ridicule que me pouvait arriver comme citoyen et comme écrivain. Donc je sais que pour moi c'est ridicule et aussi un peu dangereux, mais je m'en fous de ce genre de conséquences. Je n'ai pas de famille, je n'ai pas de fils, j'ai un chat qui mangera quand même, aussi même sans moi, même sans ma nourriture quotidienne. Il est bien organisé dans la... à côté des voisins. Donc, je ne laisse personne à charge. Et personne a besoin de moi pour vivre. Donc, je suis complètement tranquille face aux conséquences pénales de cette accusation. Mais pour moi, c'est une accusation pénible, pas pénale. C'est une accusation débile. C'est... impresentable à moi.
On va revenir sur la question de ce rapport entre la parole et l'acte, mais justement la lecture, les livres, vous partiez de ça, et en fait c'est un thème récurrent dans votre œuvre. On voit toujours le narrateur en train de lire, en mangeant, enfin il y a un thème comme ça qui revient. Et à la fin de Trois Chevaux, vous dites « Si moi aussi je suis un autre, c'est parce que les livres, enfin le narrateur dit, si moi aussi je suis un autre, c'est parce que les livres, plus que les années et les voyages, changent les hommes. » Alors, en quoi est-ce que les livres changent les hommes pour vous ?
D'abord, les phrases qui sont dans mes pages se trouvent bien là. Dit par cette personne ou personnage, ça dépend des points de vue, mais pour moi, on ne peut pas être arraché là et mis sur un mur comme une sentence philosophique, comme une phrase philosophique. C'est juste là, dans ce côté. Les livres changent les personnes. Oui, bien sûr, pour moi, c'est, comme lecteur, j'ai été changé à travers l'émotion de certaines vérités que j'ai trouvées dans les livres. Je suis un lecteur de Quichotte depuis mon adolescence. Mais mon personnage littéraire préféré est le cheval de Quichotte. Moi, je m'identifie beaucoup avec le cheval de Quichotte. Parce que moi aussi, comme beaucoup de ma génération et de mon expérience, ont été chevauchés par quelques Quichottes de bonne cause qui nous est monté sur le dos et nous a poussé à nous écraser vers quelques objectifs, vers quelques mobiles urgents et indispensables. Donc, j'ai obéi à cette Quichotte de bonne cause qui m'est sauté sur le dos. Mais en lecteur de Quichotte, j'étais allumé, comme si quelqu'un m'avait mis des lunettes sur les yeux pour me faire voir quelque chose qui était en face de moi, que je n'arrivais pas à le voir, quand j'ai lu un poème de Nazim Hikmet sur Quichotte. Et Nazim Hikmet sur Quichotte dit cette phrase: Quichotte, tu es le chevalier invincible des assoiffés. Orca miséria. Invincible. Quel adjectif absurde pour Quichotte. qui a toujours perdu toutes ces bagarres, tous les affrontements, tous les chocs, toutes les occasions de se battre. Il a toujours été battu, invincible. Voilà. Voilà la vérité immédiate. Invincible, exactement des gens comme Quichotte, qui continuellement battu, ne cesse jamais de se remettre debout pour se battre à nouveau. Il est invincible parce qu'il ne pourra pas être vaincu une fois pour toutes. Il est le parfait héros des invincibles. Celui qui, continuellement battu, est toujours là pour se battre à nouveau. Donc c'est la révélation sur le livre que j'aimais, Quichotte. Et ça me l'a donné, comme lecteur, le vers de Nazim Hikmet. Donc c'est l'explosion, la surprise, l'émotion de la vérité. Et la vérité est comme ça. Le moment avant était impensable. Et le moment après était évident. Il a immédiatement perdu toute sa charge émotive dans une minute à l'autre. Mais cette explosion de la vérité change la personne qui le lit. C'est ça qui change. Ce n'est pas les livres qui changent. Ce sont des mots, un adjectif, une ligne qui, tout à coup, change la personnalité du lecteur et sa vision du monde.
Vous êtes aussi alpiniste et la nature joue un rôle très particulier dans votre œuvre. On a souvent le sentiment d'animisme, hein, quasiment. La nature est personnifiée. Je pense par exemple au jardinier des Trois Chevaux. Je voulais vous demander si vous voulez bien lire un petit passage de Trois Chevaux, parce qu'il me semble que votre engagement écologiste est lié à ce rapport particulier à la nature. Et donc,
Je trouve que l'engagement écologiste est écrit dans l'Ancien Testament, dans Bereshit, en Genèse. La dame est responsable du lieu, qui lui est confié par la divinité. Il doit le labourer. Et il doit le garder. Ça, c'est la tâche et la responsabilité de notre espèce. Alors, il y a un jardinier ici qui dit « Ainsi, toute la journée, je suis dans un jardin où je m'occupe d'arbres et de fleurs, où je reste silencieux de bien de façon pris. Par quelques pensées de passage, une chanson, la pose d'un nuage qui enlève au dos soleil et poids. Je m'en vais dans le champ avec un jeune pommier à planter. Je le pose par terre, je le tourne, je regarde ses branches à pleine ébauchées prendre leur place dans l'espace qui les entoure. Un arbre a besoin de deux choses, de substance sous terre et de beauté extérieure. Ce sont des créatures concrètes, mais poussé par une force d'élégance. La beauté qui leur est nécessaire, c'est du vent, de la lumière, des grillons, des fourmis et une visée d'étoiles vers laquelle pointer la formule des branches. Le moteur qui pousse la lymphe vers le haut dans les arbres, c'est la beauté, car c'est la beauté dont la nature s'oppose à la gravité. Sans beauté, l'arbre ne veut pas. C'est pourquoi je m'arrête à un endroit du champ et je lui demande « Ici, tu veux ?» Je n'attends pas de réponse, de signe dans la main qui tient son tronc. Mais j'aime dire un mot à l'arbre. Lui sent les bords, les horizons et cherche l'endroit exact pour pousser. Un arbre écoute les comètes, les planètes, les amas et les essaims. Il sent les tempêtes sur le soleil et les cigales sur lui, avec une attention de veilleur. Un arbre est une alliance entre le proche et le lointain parfait. S'il vient d'une pépinière et qu'il doit prendre racine dans un sol inconnu, il est confus, comme un garçon de la campagne à son premier jour d'usine. Je le promène ainsi avant de créer son emplacement. Si, mais ça, c'est pas de l'animisme. C'est la reconnaissance qu'il fait qu'il y a une vie. Une vie qui est beaucoup plus ancienne que la mienne. Qu'il dépend des airs où n'existait pas même notre espèce mammifère. Donc, il est une créature de très, très adapte à vivre sur la terre. Et je sens qu'il a. Je suis quelqu'un qui plante les arbres. Mais pas parce que je n'ai pas de fils, alors je plante des arbres. Non, non. Non, non, je ne suis pas le père des arbres. Je ne suis pas le père des arbres. Mais en tant qu'écrivain, je sais que je exploite beaucoup avec la carte, le papier. J'exploite l'arbre. Tous mes livres ont une préface d'une motocie. Donc, un écrivain doit rembourser ses livres avec les arbres. J'ai la chance, la fortune d'habiter sur un champ et donc je plante les arbres. Et ces arbres, les arbres que je plante me font reconnaître le temps. Parce qu'ils montent et ils enlargent leur ombre sur la terre. Et à la fin, si je pourrais dire quel a été mon résultat comme être humain, c'est d'avoir produit de l'ombre, qu'il n'était pas là avant de moi, et que j'ai travaillé, j'ai aidé les arbres à enlargir l'ombre sur la terre. Et l'ombre est fertile.
Alors, dans cet essai, vous revendiquez le droit à ce que vous appelez la parole contraire, c'est-à-dire celle qui s'oppose à la doxa, à l'orthodoxie, à l'idéologie dominante, celle qui va à contre-courant. Vous écrivez, pour moi, en tant qu'écrivain et en tant que citoyen, la parole contraire est un devoir avant d'être un droit. Et vous dites aussi, le droit à la parole, c'est un droit constitutionnel, en Italie comme en France. Et vous écrivez donc, si mon opinion est un délit, je continuerai à le commettre.
S'ils ont décidé que mon opinion est un délit, je suis un criminel convaincu, récidive, et à outrance, je commettrai mon crime. Parce que je dois fidélité à mes mots et pas à la justice italienne. C'est ma fidélité établie une fois pour toutes au vocabulaire. Je suis un citoyen de mon vocabulaire. Après, je peux être aussi quelqu'un qui est expulsé ou mis en prison, mais je reste citoyen de mon vocabulaire. Donc, je dois d'abord être sûr de ça. Après, être un jugement pour des mots, c'est une situation qui regarde les juges et les avocats. Dans cette chambre de tribunal, mes mots sont en menottes, ils doivent, je ne peux pas les libérer. Ils sont en menottes là-dedans. Je ne peux rien faire pour ça. Mais dehors de cette chambre de tribunal, mes mots sont libres. Mais alors, c'est pour ça que j'écris ce pamphlet. Ce pamphlet sur la parole contraire. Parce que c'est ça, en discussion, chez nous, en Italie. Pas la parole tout court. La parole bienveillante, la parole qui est très obséquieuse des malfaits des pouvoirs et des autorités, ça c'est toujours bien accepté. ne risque rien. C'est la parole contraire qui est incriminée et qui devient un délit. Donc je suis bien content d'être le défenseur de la parole contraire. C'est pas moi que j'ai choisi cette tâche. Il m'est arrivé. Je ne suis pas la personne la plus adapte, la plus juste, mais on prend comme ça arrive à des bonnes causes, comme la défense de la parole contraire, d'avoir à faire avec du personnel pas fait pour ça. Donc, même le plus grand prophète de l'histoire sacrée, Mosè, était bégayé. Donc, il n'était pas fait pour faire le prophète. Mais la divinité avait visé exactement sur lui. Moi, il ne s'agit pas de la divinité, il s'agit du tribunal de Turin qui a visé exactement sur moi. Et alors, je prends cette tâche et je suis forcé à la soutenir. Mais ma parole reste libre dans ma tête et hors du tribunal. Dans le tribunal, il peut être condamné et gardé comme ça, insomma, comme une parole maudite par la... Mais le verbe « saboter » doit être éliminé du vocabulaire. Parce que si je ne peux pas dire que la ligne... de TGV Lyon-Turin doit être saboté, ça veut dire que ce verbe ne peut pas être employé. C'est un verbe interdit, comme le mot sabotage. Il veut l'effacer du vocabulaire. Ou il y a aussi une curieuse nouveauté qui ont introduit les juges. Et ils ont introduit une différence entre une opinion statique et une opinion dynamique. Alors, si je dis « la table a été sabotée », ça, c'est une opinion statique. Donc, c'est parfaitement tolérable. Si je dis « la table doit être sabotée », ça, c'est dynamique. Alors, ça veut dire que les verbes au futur sont des verbes dynamiques. Et donc, ce sont des verbes incriminés pour cette raison de la idée, l'interprétation nouvelle dans la juridiction italienne et latine aussi, de l'opinion dynamique. Donc, c'est une affaire qui a un côté ridicule. Que moi, comme napolitain, je suis un bon... Je l'apprécie, ce côté ridicule, parce que je le reconnais, et c'est encore plus ridicule quand le personnage qui est porteur du ridicule ne s'aperçoit pas d'être ridicule. Alors, par exemple, les magistrats qui m'ont incriminé, les accusateurs, ont dit qu'ils... Un journal, après le jour où ils m'ont renvoyé au jugement, ils ont dit que si ces mots que j'ai dit étaient des mots dits par un barbier de Bussoleno, il aurait pu le pardonner. Ils ont employé le mot pardonner. Mais dit par un intellectuel comme moi, alors c'est impardonnable. Alors. Déjà, c'est une grande reconnaissance par l'impardonnabilité d'un écrivain, c'est déjà un résultat. Je suis honoré d'être considéré impardonnable par des juges, par des magistrats. Non, ça, c'est déjà quelque chose. Mais ils emploient le verbe pardonner. C'est dans un délirio d'omnipotence, de toute puissance. L'idée qu'ils peuvent pardonner. Mais s'il s'agit d'une action judiciaire, c'est obligé ou non ? Oh, ça dépend du sentiment du pardon. Appliqué par des magistrats qui décident que le barbier de Boussoleno peut être pardonné. Peut-être, non, parce que le vrai barbier de Boussoleno était incriminé. Le vrai barbier de Boussoleno a été incriminé parce qu'il a, il est incriminé d'avoir jeté des pierres à la distance de 54 mètres. Dans 20 secondes, il a blessé 17 personnes. Donc c'est un exploit olympique, du côté olympique. Mais ça, c'est vrai, exactement écrit comme ça dans le processus contre le barbier de Boussoleno, Mario Nucera s'appelle. Le barbier de Boussoleno, qui après ça, il a été incriminé et sa boutique a été gardée ouverte par les paysans qui ont gardé ouverte sa boutique, qui ont fait la substitution du barbier de Boussoleno pendant qu'il était emprisonné pour cet exploit olympique du jeté à longue distance et comme une mitrailleuse de pierre.
Mais alors la justice ne va pas arriver si facilement non plus à prouver le lien entre la parole et les actes, puisque le mouvement ne vous avait pas attendu pour se former. Ils sont même venus vous chercher. Ce sont eux qui sont venus vous chercher, les notaves. Et vous citez donc à ce propos une déclaration de Gaetano Azzariti, qui est professeur de droit constitutionnel, qui est rapporté dans le supplément de l'Unita Left. Et il dit « L'article 21 de notre Constitution permet la plus grande liberté d'expression de nos opinions. Dans un cas comme celui d'Eri De Luca, les procureurs devront donc démontrer le rapport direct entre les mots et l'action. Si l'on ne peut démontrer un enchaînement direct d'événements entre mots et actions, alors le délit n'existe pas. »
Alors ils ont, sur cette difficulté, ils ont demandé à la préfecture de police, les accusateurs ont demandé à la préfecture de police de Turin de présenter une liste d'actions qui ont été commises après mes phrases sur un journal online. Après. Les choses qui se sont produites avant n'étaient pas dans la liste. Mais en plus, les choses qu'ils ont produites sont des choses, des actions qui ont été revendiquées comme des actions de soutien contre l'emprisonnement de 4 camarades qui étaient en prison pour des raisons de lutte contre le trou, avant que le train, qui n'a rien à voir avec la grande vitesse. Rien à voir avec la grande vitesse. C'est un trou à basse vitesse. Parce que sur la ligne Lyon-Turin, ils feront épargner aux marchandises, parce que c'est un trou pour les marchandises, 1 heure. Donc, quand on parle de grande vitesse, il faut parler des trains japonais, non ? Qui marchent à 500 km à l'heure. Mais pour un train qui doit percer 50 km de montagne pour faire épargner 1 heure à des marchandises, c'est de la... des folies bergères.
Alors cet engagement vous a valu d'être qualifié de mauvais maître. Alors ça m'a interpellée parce que bon, j'ai travaillé sur la période de l'occupation allemande en France et du régime de Vichy, et c'est une période où il y a eu une grande querelle qui s'est appelée la querelle des mauvais maîtres, parce que les écrivains, les intellectuels les plus proches du régime de Vichy accusaient les écrivains modernes comme Gide et les écrivains antifascistes de l'entre-deux-guerres d'avoir été des mauvais maîtres, et en gros la défaite militaire de la France c'était de leur faute parce qu'ils avaient appelé au subjectif, enfin, prêcher le subjectivisme, le pessimisme, etc. Voilà. Donc, bon, c'est l'idée que l'écrivain est une autorité, qu'il doit donner l'exemple. Mais vous commentez dans le livre cette notion, de cette imputation qu'on vous fait d'être un mauvais maître. Donc, je voulais vous faire réagir là-dessus.
Bon, mauvais maître, d'abord, je n'ai pas complété l'étude. Donc, je ne peux pas être. Je vais prendre ce titre abusif pour moi, de maître. Je suis maître de personne. Je suis resté élève. Et quand j'étais élève, j'étais un mauvais élève. J'étudiais beaucoup et je prenais des mauvaises votations. Donc j'étais le pire des élèves possible. Parce qu'il y avait des élèves qui n'étudiaient rien et allaient très mal à l'école. Et ça, c'était normal. Mais dans mon cas, moi, j'étais l'exception. J'étudiais et j'irais mal à l'école. Donc j'étais dans la pire relation qualité-prix. Mais si je dois être accusé de quelque chose de mauvais, oui, je suis un mauvais élève. Mais mauvais maître, j'ai rien contre mauvais. Si quelqu'un, spécialement si les autorités me prennent pour mauvais, je me trouve bien, bien dans ma peau. Mais maître, je ne peux pas accepter ce titre honorable de maître. Non.
Donc même pas un bon maître.
Non, je pourrais enseigner rien à personne. Parfois, quelqu'un me dit que si je l'amène en montagne, et je préfère dire non. Je préfère dire non parce que je ne vais pas avoir cette responsabilité. Parce que aller en montagne est quelque chose de... on prend un danger, on va vers un danger qui est un danger plein de beauté, un danger de fête, mais reste un danger. Et donc, je sens la responsabilité de ne pas mettre en danger pour raison de bonheur la vie de quelqu'un qui me demande ça. Je vais avec des personnes qui sont déjà des alpinistes. Mais je ne peux même pas faire le maître de quelque chose que je sais faire, comme monter sur une montagne.
Alors vous êtes écrivain, vous êtes traducteur, vous maniez la langue, les langues, vous travaillez le sens des mots, hein, et puis la langue c'est aussi la matière de votre œuvre, un thème récurrent dans l'œuvre, par exemple dans Monte Didio, quand il y a l'écart entre le napolitain et l'italien, hein, le jeune garçon apprend l'italien, écrit en cachette dans l'italien, voilà. Et donc, évidemment, le rapport à la langue n'est pas tout à fait celui de la justice. Hein. Donc, vous revendiquez, vous réclamez le droit d'utiliser les mots dans un sens qui n'est pas celui que leur assigne la justice. Et comme ce verbe saboter, pour lequel vous êtes poursuivi, je voulais vous faire lire ce passage dont vous parlez de ça.
Je revendique le droit d'utiliser le verbe saboter. Selon le bon vouloir de la langue italienne. Son emploi ne se réduit pas au sens de dégradation matérielle, comme le prétendent les procureurs de cette affaire. Par exemple, une grève, en particulier de type sauvage, sans préavis, sabote la production d'un établissement ou d'un service. Un soldat qui exécute mal un ordre le sabote. Un obstructionnisme parlementaire contre un projet de loi le sabote. Les négligences, volontaires ou non, sabotent. L'accusation portée contre moi sabote mon droit constitutionnel de parole contraire. Le verbe saboter a une très large application dans le sens figuré et coïncide avec le sens de entraver. Les procureurs exigent que le verbe saboter ait un seul sens. Au nom de la langue italienne et de la raison, je refuse la limitation des sens. Il suffisait de consulter le dictionnaire pour archiver la plainte sans queue ni tête d'une société étrangère. J'accepte volontiers une condamnation pénale, mais pas une réduction de vocabulaire. Non, mais dans mon emploi du verbe saboter, il y a aussi du sabotage matériel, bien entendu. Mais il y a une vallée, une communauté qui, depuis 20 ans, s'oppose en masse à cette œuvre. À cette œuvre monstrueuse qui empoisonne déjà l'air air, l'air eau, l'air santé. Il y a 20 ans que cette communauté s'est réunie, a réuni ses fibres et agit comme une seule personne, comme un peuple entier. qui fait des manifestations, qui a subi maintenant, dans les dernières deux années, 1000 incriminations. Il s'agit par le tribunal de Turin. Au tribunal de Turin, il y a eu pour deux ans un groupe spécial qui s'occupait exclusivement d'incrimination de gens contraires à la ligne Lyon-Turin. 1000 incriminations pour tout genre de titre de... Donc, il s'agit d'une volonté de persécution et de répression d'un mouvement de masse. Alors, je parle de cette résistance qui dure depuis 20 ans, et cette résistance est celle qui sabote et a saboté cette œuvre. Ah, le plus grand sens politique civil, c'est le verbe saboter quand on parle de cette communauté, de la vallée de Souza. Donc, il y a aussi le côté des dégâts, du dommagement matériel. Il y a aussi la possibilité qu'on parle aussi des outils pour couper les filets qui sont mis autour du... Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sabotage est ? Le couper des filets qui sont en plus placés sur un terrain interdit. Ils ne pouvaient pas mettre les filets là où ils les ont mis. Ils ont commis un abus à mettre sur certains parcours de cette enclave des filets. Alors, à les couper, c'est un sabotage, mais c'est rien du tout. C'est une manifestation symbolique. C'est un essai de repristiner la légalité. La remettre... reproduire, faire un acte de légalité, celle de détruire ou d'endommager des filets abusifs. Donc, pour moi, le verbe saboter appliqué à ces peu de choses qui se sont produites n'a rien à voir avec mon sens du verbe saboter. Et de toute façon, je vais employer le verbe saboter. Ça va ? Vous me l'empêchez, vous me mettez en prison, d'accord. Je suis d'accord, mais je vais employer le verbe saboter quand il s'agit de mouvements de masse. Quand il s'agit, par exemple, de la Val de Susa, mais comme de Lampedusa, quand ils refusent, les pêcheurs ont refusé d'obéir aux ordres qui empêchaient de sauver des gens dans la mer. Ils ont saboté l'ordre. Ils avaient le droit civil, moral, indispensable de le faire pour sauver des vies humaines dans l'eau. Et s'ils étaient reconnus comme des sauveurs de vie humaine, ils perdaient le bateau. On est arrivé à ça dans notre législation. Le législateur n'est pas quelqu'un qui est une divinité. Est souvent un con ou un criminel. Donc, la responsabilité d'une communauté civile est aussi celle de saboter des lois et des projets contraires à l'esprit de l'humanité.
Alors justement, j'ai retrouvé dans une de vos premières nouvelles le terme de sabotage, qui figure dans la nouvelle Le Panneau. Hein, il désigne un acte commis par des élèves de seconde qui ont détaché un panneau du bureau pour voir les jambes de la remplaçante pour lequel toute la classe en fait risque d'être punie, expulsée même de l'école. Et en fait, vous êtes, la nouvelle porte sur le silence obstiné dans lesquels se sont murés les élèves, par solidarité spontanée avec les coupables, donc ils sont tous menacés d'expulsion de l'école. Et alors bon, le terme sabotage ici, évidemment, ça désigne un acte de transgression, quand même qui paraît pas d'un ordre très très grave, que le narrateur ne justifie pas en soi d'ailleurs. Hein.
dans la nouvelle. Mais il se remémore fasciné, ce refus non concerté de dénoncer en fait les coupables, hein, ce mouvement spontané de solidarité.
C'était un acte de voyeurisme. Mais la partie la plus intéressante pour moi de ce récit est la leçon sur la différence entre solidarité et omerta. Qu'est-ce que c'est l'omerta en français ? Loi du silence. Entre la solidarité et une loi non dite, une loi illégale, implicite de silence. Ça, c'est une leçon que je me suis souvenu de ce grand maître de grec qui nous avait, qu'un jour il avait suspendu les leçons, il nous avait donné cette leçon qui est restée imprimée quelque part dans moi-même, parce que quand j'ai commencé à la réécrire, cette histoire, il m'est revenu comme sorti d'un puits où il était resté comme de l'eau parfaitement gardée dans une citerne. Et il était resté ce discours. Non, c'est le sabotage, lui, c'est le sabotage de la discipline, c'est le sabotage de la résistance contre le chantage. Ou vous dénoncez les responsables, ou vous, tous ensemble, vous serez expulsés par l'école. Donc c'était cette résistance qui sabotait la discipline et sabotait l'ordre de l'autorité de l'école. C'était pas un bon moment pour la. C'était pas un cas exemplaire pour faire surgir cet esprit de sabotage et de solidarité. Mais ça arrive comme ça, non, dans les histoires. Ils arrivent par des petits épisodes qui produisent des grands changements. Dans l'usine Fiat, dans la fin des années 60, il y avait un régime de dictature sur le travail. C'était impossible, même sur la ligne, de parler ou de changer un mot avec le copain à côté à mètre de distance. Il y avait toute une. Si on faisait une transgression comme ça, on était expulsé de l'usine. Et tout à coup, il explose une révolte totale contre la discipline pour une raison insignifiante, qui était le changement des vêtements de la tuta, comme on dit, le maillot de travail, non, l'uniforme de travail qui se remplissait d'huile dans 2-3 jours. La Fiat le changeait une fois par mois. Mais alors ils ont fait une lutte, il est parti une grève spontanée et violente aussi pour avoir des remplacements de ces. Et la lutte à la Fiat, la plus forte lutte ouvrière qui a inauguré la saison de la lutte ouvrière en Italie est partie pour une raison comme ça. Donc il y a des déclics qui font avenir, font partir des mouvements de masse qui n'attendent qu'une étincelle la plus petite et la plus insignifiante pour éclater énormément. On ne peut pas, on le sait jamais avant, mais tout de suite on le sait, c'est parti, rien ne sera plus comme ça. Et dans cette usine, on a renversé la répression et l'autorité de l'usine et à travers des luttes spontanées comme ça, qui ont fait le maximum de dégâts à la production, en faisant perdre peu de monnaie aux ouvriers, avec des techniques de sabotage de la production. Sabotage de la production. C'était exactement ça. Ils voulaient blesser la production. Et ça a donné a fait entrer la démocratie dans l'usine. Ils ont été forcés à traiter avec cette force ouvrière, pas au dehors du syndicat, cette force ouvrière que nous, pas nous, avions suscité, mais que nous soutenons de l'extérieur et à l'intérieur. Lutta continua, non avait pas inventé la lutte à la Fiat, mais elle était là quand elle s'est déclenchée. Elle était là à la soutenir à l'extérieur pour la faire circuler. Alors quand il parle d'années de plomb, je dis il s'agit d'années de cuivre, parce qu'il y avait cette possibilité de lier des luttes les plus différentes, les plus loin, de les faire passer ce fil électrique de la communication et de la condivision qui faisait exploser des luttes ouvrières partout dans l'Italie d'ailleurs, à travers ce réseau duquel nous étions un des filets, un des maillots de ce réseau, cuivre, le matériel conduitant par excellence. C'était des années d'électricité de la lutte politique ouvrière, de la lutte ouvrière, et qui rendait les ouvriers des chefs politiques. Ils étaient capables de parler, pas seulement de leur seule condition, mais ils parlaient de la condition du monde. Il parlait du Vietnam, il parlait de l'Afrique du Sud. Ils étaient au centre du discours et de l'ordre du jour de ce moment. Et quand parlait un ouvrier dans une salle de l'université, il y avait un silence total. Ils avaient obtenu le droit de parole et d'écoute, les ouvriers, à travers leur lutte, à travers leur sabotage de l'autorité et de la dictature dans l'usine. Donc je suis le témoin et je suis quelqu'un qui a eu cet apprentissage. C'est inévitable pour moi d'être responsable de ce qui se passe autour de moi. Et quand je parle de devoir de parole contraire, c'est parce que si je me tais, si je réduis au silence mon opposition et mon indignation, je gâche mon vocabulaire. Je ne pourrai plus écrire, je ne pourrai plus parler, parce que j'aurai gâché la substance de la raison pour laquelle j'emploie un vocabulaire, pour communiquer, pour dire ma conviction et pour la partager avec les autres. Si je me mets à faire la balance de ce que je peux dire et je ne peux pas dire face au monde, face à ce qui se passe autour de moi, je saboterai moi-même. Donc pour moi, c'est un devoir de santé, pour la santé de mon vocabulaire, pour l'hygiène de ma bouche. Je dois employer les mots avec le sens propre que je vais dire et duquel je suis convaincu.
Alors vous écrivez l'importance attribuée à mes phrases est pour moi une reconnaissance littéraire. En Italie, je n'en ai reçu aucune pour la bonne et suffisante raison que je n'en souhaite aucune. Cette inculpation est mon premier prix littéraire en Italie. Alors ça m'a évoqué le mot de Victor Hugo à Baudelaire après sa condamnation, quand Victor Hugo dit qu'il le félicite de sa flétrissure et il dit que c'est une des rares décorations que le régime actuel peut lui accorder. Voilà, donc je voulais que vous commentiez ce...
Ils ont pris mes mots et ont décidé qu'ils sont les mots plus dangereux d'Italie. Parce qu'aucun avant de moi a été incriminé pour des mots qu'il a dit. Donc, mes mots ont été considérés les plus dangereux, dignes d'une incrimination. En plus, ils ont été jugés capables de susciter des actions et des crimes aussi. Donc, mes mots, même les mots d'un chef de parti qui a dit « on va à Rome avec les armes, on prend les fusils », même là, il n'a pas été suivi par personne. Et cet autre-là a dit « on fait la grève du fisc, on ne paie plus les impôts ». Personne l'a suivi. Mais maintenant, moi, je suis capable de faire avenir, à inciter des personnes à faire des résultats, des actions concrètes. Donc, ça, c'est une reconnaissance littéraire aux valeurs de mes mots. Aucun autre mot a été jugé digne de cette incrimination. Donc, c'est pour moi littéralement une reconnaissance littéraire, la valeur du mot d'un écrivain. Merci.
D'ailleurs, vous écrivez qu'on devrait condamner la Marseillaise, puisque c'est aux armes citoyens, n'est-ce pas ? C'est une incitation à prendre les armes.
Oui, c'est votre hymne national, c'est celui que je préfère.
Alors, une avant-dernière question, c'est dans l'article Jean de Lettres de l'Encyclopédie, Voltaire saluait le courage de ceux qui, en disant la vérité, prennent des risques et s'exposent, tels les prophètes, à la persécution. Mais évidemment, ce désintéressement, c'est aussi ce qui assure leur crédit auprès du public. Et c'est pourquoi, en fait, les procès, généralement, amplifient le pouvoir des mots. On sait que bon, la foule se pressait au premier grand un des premiers grands procès publics du chansonnier Béranger en 1821. Et d'ailleurs, la presse avait reproduit l'acte d'accusation avec les chansons incriminées. Et donc, le livre avait été tiré à 10 000 exemplaires. Et là, il est diffusé à 100 000 exemplaires avec toutes les chansons incriminées. Donc, c'est le procès qui avait amplifié. Et évidemment, très vite, la justice a compris que ces procès aussi contribuaient à accroître la notoriété de l'écrivain. Alors j'imagine que vous connaissez le mot du général de Gaulle au ministre qui le pressait de faire arrêter Sartre pour son soutien à l'appel à la soumission dans la guerre d'Algérie. Il avait répliqué « on ne met pas Voltaire en prison ». Voilà.
Chez nous, il n'y a pas de Gaulle. Non. Non. Je suis pas digne de la comparaison, pour la vérité, parce que l'idée que Sartre exaltait et faisait déclaration d'inviter à la désertion, ça c'est une grande force de morale, autre que une force de quelqu'un qui sait d'être seul à prononcer ce mot. Par contre, je ne suis pas seul. Je suis quelqu'un qui se trouve dans une lutte, parce que je participe de la lutte de la Val de Souza. Je ne suis pas leur porte-parole. Je suis seulement quelqu'un qui est convaincu de raisons de cette lutte populaire. Donc, je suis seulement un porteur de l'écoute de cette lutte, un amplificateur de cette lutte, peut-être, mais je ne peux pas me mettre à côté de l'exemple que vous venez de faire maintenant.
Mais Sartre soutenait aussi, en fait, les déserteurs de la guerre d'Algérie. Ça correspondait à une lutte et il n'était pas tout à fait seul, puisque c'était un appel à la soumission, signé par 121 écrivains. Et voilà, donc je pense que la question de mettre en prison pour le soutien des causes, c'est un peu du même ordre. Peut-être qu'avant qu'on prenne des questions... Je sais que vous vouliez vous exprimer, dire quelque chose sur les événements tragiques qui nous ont frappés la semaine dernière.
C'est, comme tout le monde, j'étais blessé par ces massacres. Mais j'ai reconnu que ces massacres ont pris pour cible la France et Paris. Les assassins ont reconnu que c'est ici le centre de la question, le centre des arguments principaux qui sont sur le terrain. Ce n'est pas la question, c'est tout simplement de la liberté de critique à travers une rédaction de Sinner. C'est une question de la liberté tout court. La liberté. Parce que ces assassins sont l'expression et l'exposé de ceux qui considèrent la liberté immorale. Selon leur foi, cette notre conquête, qui est la liberté de parler, de dire mots contraires aussi, c'est immoral. Ils ont voulu la blesser, l'attaquer. Ils l'ont fait à Paris, ici. C'est le centre. Ils ont bien choisi l'endroit. Ça, c'est le centre de la civilisation, de ce mot « liberté » que nous essayons de pratiquer par nous et qui est écrit dans notre Constitution. Et donc, je trouve qu'ici, ils trouveront le terrain le plus dur pour avancer. Aujourd'hui, nous sommes habitués à penser l'Europe comme une espèce de marché comment troublé par des questions de déficit, troublé par le 3% du déficit. Mais l'Europe n'a pas été fondée par des banques. L'Europe a été fondée après la Deuxième Guerre mondiale, après la plus grande destruction des vies humaines qui s'est produite dans l'histoire de l'humanité sur son terrain, sur notre petit terrain, sur le plus petit des continents. L'Europe a été formée et fondée par la volonté de bannir la guerre, les fascismes, les tyrannies, les nazismes et les racismes. L'Europe a été fondée sur des racines très solides. Nous sommes donc ici tous membres de cette communauté de citoyens qui ne feront pas reculer un centimètre de la liberté et de la fraternité que nous avons confirmée dans ces jours. Donc je suis aujourd'hui fier d'être invité parmi vous, d'être à Paris, d'être, de pouvoir parler votre langue, de pouvoir dire ces mots à vous, que vous êtes ici le centre de notre résistance à l'agression. C'est une agression qui vient de l'extérieur, mais qui vient aussi qui profite de notre des citoyens de nos pays. La nouveauté est que maintenant il y a un endroit dans le monde où des citoyens musulmans qui désirent faire de la lutte armée, il y a un endroit où ils peuvent la faire. Avant de ça, il n'y avait pas un territoire. Si quelqu'un était fasciné par Bin Laden, n'allait pas pouvoir pas aller à marcher dans l'Afghanistan en cherchant où se faire embaucher. Maintenant, il y a un endroit dans le monde, un endroit plutôt vaste comme la France, un territoire occupé où il y a cette possibilité de citoyens européens qui vont prendre cette qui font cette démarche et qu'il ne reste pas là, il revient. Donc, la nouveauté de maintenant, c'est ce territoire-là, planté là, qui veut enlargir, qui produit de la conquête, qui n'est plus l'activité de bandits secrets, mais c'est un qui prétend être un État et d'avoir une organisation sur le territoire. Ça, c'est la grande nouveauté de notre temps qui permet la prolifération de ces actes d'agression criminelle chez nous. Mais l'acte, je reviens au fait qu'il s'agit de... Ils ont attaqué le centre. Et le centre, nous sommes... On dit, insomma, je suis Charlie, je suis parisien.
Dans le Don Quichotte et les Invincibles, vous avez dit que plutôt que de parler de 2015 après Jésus-Christ, on pourrait dire 400 ans après Don Quichotte. Par ailleurs, vous avez écrit des paroles de chansons et vous avez aussi chanté dans le Don Quichotte et les Invincibles. Et votre traductrice, Danielle Valin, est une excellente chanteuse. Est-ce que vous ne pourriez pas nous faire un spectacle de chansons en duo ?
Avec Daniel, je n'ai jamais chanté, mais elle, quand elle chante dans un coro, comme on dit, un chœur. Pour le moment, je suis engagé sur un stage judiciaire. Je chanterai là.
Oui, d'abord, merci pour tout ce que vous dites et faites. Merci pour tout ce que vous écrivez et ce que vous dites et votre présence. Et je voulais vous poser une question à propos de Houellebecq. Est-ce que vous pensez qu'il a eu raison ou comment vous interprétez le fait qu'il se soit d'une certaine façon auto-censuré à partir du moment où son livre est sorti et où il a dit, étant donné ce qui se passe, je n'en ferai pas la promotion en ce moment ?
Bon, c'est un choix d'écrivain. Je peux pas, on ne discute pas sur ce qui fait un écrivain. Sur ce qu'il ne fait pas. On discute sur ce qu'il fait. Donc, je pourrais parler du livre si le moment où je le lis, mais sinon, s'il a le sentiment de ne pas le promouvoir, de faire pas la promotion de son livre, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je viens de savoir maintenant d'une femme, c'est déjà fait. Il n'a pas besoin de bah, je ne sais pas.
C'est
vraiment.
Déjà largement fait, oui.
Les coïncidences tragiques peuvent faire des. Aussi des battages publicitaires.
Oui, bonjour. Je voudrais juste un peu doucher l'enthousiasme français des droits de l'homme et de la liberté d'expression, même si le moment est malvenu, car la société Lyon-Turin Ferroviaire qui vous poursuit est une société qui est bien française, dont le siège est à Chambéry, que son président Hubert Dimenil porte la responsabilité des poursuites tant en Italie qu'en France. Puisque la parole contraire est également poursuivie en France, en correctionnel, par la société Lyon-Turin Ferroviaire. Parce qu'un ancien ministre français des Transports, Louis Besson, qui représente la France dans le projet Lyon-Turin, est allé témoigner contre les 4 inculpés de terrorisme en Italie, et que le président de Lyon-Turin Ferroviaire y est allé également, et donc la nation de la liberté de l'expression se pourvoit contre les opposants en Italie, et parce que, et je tiens à le préciser, ce sont des présidents français qui ont laissé nommer M. Maurizio Bufalini, directeur général de Lyon-Turin Ferroviaire en mars 2014, alors que c'est lui qui a signé les commandes pour les grilles qui ont été cisaillées, mais qui avaient été commandées à la mafia. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la société Lyon-Turin Ferroviaire est en train de lancer un appel d'offres pour le support logistique des forces de l'ordre en Italie pour pouvoir réprimer le mouvement italien et, je dirais, dans un ensemble plus général, pour réprimer le mouvement franco-italien dont je fais partie et dont je vous invite à vraiment vous poser la question en France de ce qui pousse la France à imposer ce dossier. Merci.
Bah d'ailleurs, la société a été épinglée par la Cour des comptes à plusieurs reprises. Hein.
Il y a un livre qui a été publié sur le sujet qui s'appelle « Trafic en tout genre » et qui reporte bien son nom. Et il y a un site internet qui s'appelle lyonturin.eu puisqu'ils n'avaient pas eu la bonne idée de l'acheter avant. Donc c'est l'opposition qui a pris ce site-là, lyonturin.eu, où vous trouverez beaucoup d'informations. Et je voudrais, à titre personnel, vous exprimer, non pas ma solidarité, mais j'ai été cité en correctionnel par Lyon-Turin Ferroviaire sur, justement, la base d'une déclaration d'un journaliste.
C'est-à-dire que moi, ma question, alors du coup, je ne sais pas si c'est un petit peu décalé par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je me posais la question de savoir si le tunnel en question était destiné aussi au ferry routage, c'est-à-dire parce que comme vous mettez l'accent sur la pollution, ce que représente la construction, le percement du tunnel comme pollution, alors je me demandais si, enfin comme je suis pas très au courant du projet à vrai dire, mais est-ce que ce tunnel ne servirait pas à faire passer des camions plutôt que de les faire passer par un col qui, vous voyez ?
Non, c'est seulement une ligne ferroviaire. C'est une ligne ferroviaire, c'est pas une autoroute.
Oui, mais le ferroutage, c'est autre chose. Enfin, le ferroutage, c'est le fait de mettre des camions sur un train pour faire passer les camions au lieu que les camions polluent en passant par un col, ils sont posés sur un train, ils passent dans le tunnel. Vous voyez, c'est ça.
La ligne existante permet de le faire aujourd'hui, ils refusent de le faire. La ligne existante permet de le faire.
Il y a eu 1 milliard d'euros investis sur cette ligne. La ligne existante permet de le faire au départ d'Ambérieu. Tous les rapports de l'État et de RFF le disent. Vous pouvez vraiment regarder ce dossier. C'est une supercherie totale et une mascarade démocratique. La ligne actuelle, qui a été rénovée entièrement depuis 2002, tous les tunnels ont été élargis, tous les investissements ont été faits. Ce projet est inutile car tous les camions, toutes les marchandises peuvent passer sur la ligne existante actuelle. 30 milliards d'euros.
C'est un TGV Lyon-Turin, en fait, c'est ça. Le projet, c'est un TGV Lyon-Turin, voilà, c'est ça. Bon.
Et alors, je me demandais, en fait, on a vu tuer la liberté d'expression en France. On a eu la démonstration. Et du coup, on utilisait des mots, des crayons, on a dit. Mais voilà, vous faites de quelle façon la même chose. Et évidemment, il y a des intérêts politiques, économiques derrière. Mais voilà, ce sont les institutions italiennes, c'est l'État qui condamne. Et alors, je suis en train de me demander quelle est la valeur, selon vous, de la liberté d'expression. Enfin.
A une valeur en soi. La liberté d'expression a une valeur en soi. Par exemple, dans un régime tyrannique, le seul mot est capable de donner de la résistance aux personnes. Prononcer des mots sous un régime d'oppression, c'est résister à l'oppression. Dans notre cas, il s'agit de... Dans mon cas, il s'agit tout simplement d'être à côté d'une communauté qui se bat pour des raisons de légitime défense de soi-même. Et j'ai bien présent que face à moi, il y a un pays le plus corrompu d'Europe, que les travaux qui sont faits en Italie sont des travaux faits à travers des entreprises qui sont liées au parti. Et c'est pour ça que les partis sont d'accord. Ce qui se produit maintenant, ce n'est pas quelque chose de d'ancien. C'est quelque chose de complètement nouveau. Il y a une volonté, pendant, même dans les, certains états de droit, de démocratie, une volonté de faire des... à travers des raisons d'intérêt privé ou intérêt tout court, d'écraser les droits élémentaires des personnes. Les droits élémentaires, ça veut dire les droits à la santé, les droits de la, à une air saine, à des eaux non polluées, à un sol où on peut cultiver des de produits. Il y a eu une, dans la, à Taranto, il y a une grande usine qui fait de la sidérurgie qui s'appelle l'ILPA. Ils étaient, les patrons ont été condamnés parce qu'ils ont, pour consciente et lucide omission face aux pollutions de, la, de l'amiante, notamment. Il s'agit de ça. Aujourd'hui est en cause la intégrité physique des personnes. Ça, c'est la nouveauté. Il faut imaginer l'urgence d'un nouveau habeas corpus. Un corpus qui te garantit, face à, la, à, la, à, la, à l'État, ton droit à l'incolumité, à l'intégrité physique. C'est ça l'ordre du jour nouveau. C'est pas la question de... C'est tout le contraire de dire ça. Il s'agit d'une communauté qui est contraire au progrès, à la vélocité, à la vitesse des trains, c'est pas parce qu'ils sont des montagnards. Ils sont l'avant-garde d'une volonté populaire d'établir les droits sur son sel, la souveraineté sur leur corps. Ça, c'est le vrai objet qui se produit dans notre démocratie à l'ordre du jour. Et en Italie, c'est plus évident. Parce que c'est plus sfacciato, comme on dit, c'est plus. C'est manifeste, il s'en fout complètement de ce qui se passe. Et seulement des réactions populaires très, très fortes arrivent parfois à arrêter des projets comme ça. Donc. Chez vous aussi, il y a des choses un peu plus. Un peu moins grave comme chez nous, mais on commence ici aussi à avoir ce sentiment de mépris face aux droits élémentaires d'une communauté visée par quelques projets progrès qui sont liés les deux choses, non ? Sont pas liés les choses. Le progrès est la garantie de l'intégrité physique des personnes aujourd'hui.
Bonsoir. Je voudrais vous poser une question personnelle. J'espère qu'elle ne l'est pas trop. Mais je m'y autorise parce que ce qu'a été le Don Quichotte pour vous, eh bien pour moi, ça a été le contraire de un qui m'a fait donner le sentiment que j'étais comprise par quelqu'un. Je vais beaucoup mieux depuis. Donc je regrette de ne pas vous l'avoir dit à ce moment-là. Je le fais maintenant. En tout cas, la question personnelle, c'est de vous demander... Quel sentiment maintenant vous avez, à l'âge que nous avons, par rapport à la capacité à être libre de dire ? Vous avez eu plusieurs étapes dans votre vie avant d'être écrivain, et vous avez peut-être eu le sentiment, quand vous avez commencé à écrire, que vous étiez plus libre qu'à aucun autre moment. Mais finalement, compte tenu de ce qui arrive aujourd'hui, et compte tenu de ce qui est toujours arrivé aux écrivains qui s'élevaient contre des pouvoirs, est-ce que vous n'avez pas un peu un sentiment de découragement et de vous demander où diable est-ce que vous pourriez aller, est-ce que vous pourriez faire pour que la liberté de dire n'ait pas un tel prix?
Où je peux aller, jusqu'où je peux aller en prison. Ça c'est
d'accord, on viendra
vous
voir.
Ça rentre dans mes capacités de survie. Mais... je me sens pas découragé. Je suis quelqu'un qui se trouve mis contre sa volonté sur une tranchée. Je suis mis là dans un dans un endroit que je n'avais pas prévu, mais que je suis sûr que je saurais le tenir. Donc je ne suis pas du tout découragé. Je sens la responsabilité de cette tâche qui est plombée sur moi, par hasard, parce que mes phrases sur un journal online en Italie, qui était complètement inconnu à tout le monde, sont devenues...
Le Huffington Post.
Si, c'est un journal, pratiquement. Il était tout nouveau et il était online. Donc c'est un journal qui personne ouvrait ou connaissait. Donc, ils ont pris cette phrase et ils ont voulu la mettre sur... et mettre moi-même sur cette échafaudage. Me vient le mot échafaudage, mais c'est pas correct. Mais je sais que... Où j'ai à défendre mes mots, je suis dans ma peau, je suis à ma place. Je suis tranquillement encouragé par moi-même. Je ne ferai pas appel contre le tribunal, parce que je ne vais pas redire mes mots face à un autre tribunal qui peut être un peu plus gentil. Non. Mes mots sont ceux qui sont écrits là, et ça doit être suffisant pour ma défense. Mais je fais appel à moi-même, reste là. Et je sais qu'en faisant appel à moi-même, je sais sur qui je peux compter. Donc, je sais qu'il est capable, moi-même, d'être là.
Il y a encore deux questions. On va peut-être les regrouper parce qu'on va devoir quitter les lieux. Et peut-être que vous voulez quand même faire signer quelques dédicaces.
Oui. Moi, je voulais dire, si tu pouvais nous éclairer sur ta position... sur la responsabilité, la possibilité des intellectuels, des écrivains, des créateurs par rapport à la désertion des pouvoirs publics qui conduisent aussi aux actions qu'on a subies là, puisque ces jeunes cherchent refuge là où on les accueille. Et voilà, je voulais savoir ce que tu pensais que les intellectuels, entre guillemets, les artistes, pouvaient faire.
Non, je ne sais pas. Je peux parler pour moi-même, mais je fais ce que je peux. Non, je n'ai pas un programme. Je ne peux pas écrire un manifeste sur ce que doivent faire les autres. Je peux écrire une petite liste de ce que je dois faire moi-même. Comme un menu, non? Si je dis... que je cuisine les spaghettis, je ne peux pas me présenter avec une potage, avec moi-même. Donc, je suis responsable de mon menu.
Ma question aussi porte un petit peu sur ces sujets. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez du mot intellectuel. Mais à ces propos, j'ai l'impression qu'il y a un écart entre l'Italie, qui est mon pays, et la France. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ici, les mots intellectuels ont encore une légitimité publique. On peut jouer ces mots dans l'espace public. Et par contre, en Italie, les mots sont complètement délégitimés. C'est-à-dire qu'on utilise intellectuel comme une pierre pour blesser quelqu'un. Il est un intellectuel, il est nul, c'est un intellectuel, il dit rien. Et qu'est-ce que votre avis et la raison, si vous êtes d'accord? Et enfin, pourquoi en Italie, dans ces moments, il n'y a pas... des voix critiques, et pourquoi, à votre avis, les consensus au pouvoir politique est si étendu? Merci.
Bon, l'intellectuel chez nous est un escroc. Il y a quelqu'un qui gagne son pain en trichant, donc c'est un tricheur. Aucun C'est un mot pour insulter quelqu'un. Tu es un intellectuel. Comme dit, tu es bon à rien. Tu as quelqu'un qui te donne à manger, c'est évidemment. Peut-être que tu as de bonnes familles, et alors que tu as une. Ici, pas pour dire l'intellectuel, mais face à la, au mot culture, en France, vous dépensez une bonne tranchée du produit, de votre produit national. Vous jetez de l'argent dans le mot culture. Chez nous, le mot culture est le premier à être coupé dans les bilans de l'État. Le premier à être coupé. Donc, en Italie, ce que nous, qui sommes les prétendus détenteurs de la majorité du patrimoine culturel de l'humanité, nous dépensons pour la culture la troisième partie de ce qui dépense la France. Donc, c'est vraiment une. Pour nous, la culture, l'intellectuel, c'est quelque chose de. C'est un escroc qui ne sert à rien. Et quand quelqu'un comme moi vient d'être accusé pour ce qu'il a dit, ah, voilà, le pire qu'il peut faire un intellectuel, c'est ça, exactement. C'est de faire de l'incitation pour des actes de violence. À moi, il me reproche aussi mon passé. Mais pour moi, la question, c'est si je suis un inciteur à la violence, il faut trouver mes incitations à la violence dans mes livres, pas dans ma biographie. Parce que je ne suis pas accusé d'avoir fait quelque chose. Je ne suis pas accusé comme le prodigieux tireur franc de le barbier de Bussoleno d'avoir tiré des pierres en 20 secondes, tu es blessé 17 personnes. Non, je suis incriminé pour des choses que j'ai dit. Et donc, ma prédisposition à l'instigation à la violence se doit trouver dans mes livres. Et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup que chez nous, maintenant, beaucoup de personnes se sont mises à faire des lectures publiques de mes pages, comme soutien personnel, comme soutien à moi, pour revendiquer le fait que là, il y a que le crime est là, dans les pages que j'écris. Je me suis soutenu par beaucoup de personnes qui, à un niveau populaire, organisent des manifestations comme ça. Beaucoup, beaucoup de petites manifestations comme ça, des lectures. Des personnes s'organisent pour chacun va et va lire une page qu'il aime. Il fait comme ça, ce sont des réunions qu'ils font pour soutien à un écrivain qu'ils aiment. Donc c'est ça. Ma défense est là, et dans mes pages. Et basta.